Il est 8h11 dans les promesses de l'aube. Ça y est, on se réveille un peu. Enfin, moi, je sens que je me réveille enfin. Et on reçoit nos invités pour la campagne de réquisition solidaire avec Camille. Et Camille, bonjour à vous.
Hello.
Bonjour.
Alors, la campagne de réquisition solidaire, qu'est-ce que c'est ?
Donc, voilà, c'est un regroupement, disons, spontané et ouvert de différents collectifs et différents électrons libres individus durant l'hiver 2020. En constatant que de nombreux centres d'hébergement d'urgence n'avaient plus les places suffisantes pour accueillir toutes les personnes qui étaient en rue, constatant de nombreuses personnes mal logées ou déjà dans des conditions très précaires de logement qui recherchaient à se reloger comme des personnes de la voie des sans-papiers. Donc oui, c'est vers le mois d'octobre, novembre où différents membres de cette campagne se sont réunis informellement dans la vocation de trouver de logements pour des personnes de la voie des sans-papiers. Et c'est le 18 décembre 2020 que le premier lieu à Saint-Gilles a été ouvert, qui est une ancienne clinique d'Antoine Depage, qui appartient au CPAS 2000 Bruxelles. Et s'en est suivi quatre autres ouvertures, dont une tentative qui était vouée à l'échec. Je pense que c'est le 15 janvier, le 22 janvier, le 29 janvier et la dernière en date le 26 février au Pacheco, qui s'en est suivi par une expulsion manu militari par la police de Mille Bruxelles, avec le consentement du CPS de Mille Bruxelles, qui était à nouveau propriétaire de ce bâtiment.
Donc l'idée, c'est de réquisitionner des bâtiments vides.
L'idée, c'est de répondre à la crise sociale actuellement par la réquisition solidaire de bâtiments vides inoccupés à Bruxelles. Faire valoir le droit de réquisition dont chaque bourgmestre pourrait utiliser après. Plus de 6 mois d'inoccupation d'un bâtiment, il peut, dans des conditions, alors que des personnes sont à la rue, le bourgmestre aurait le droit de réquisitionner des bâtiments vides. Ceci n'étant pas le cas, on a décidé d'agir.
Donc en fait, vous faites leur taf, quoi.
En gros, on fait leur taf, mais on ne veut pas se prétendre être une réponse structurelle aux conditions austères et précaires actuelles. On veut que le politique prenne ses responsabilités en main et agisse pour ses citoyens, concitoyens qui sont dans une détresse objective et urgente, qui plus est dans cette crise sanitaire. Donc voilà.
Camille, tu...
Donc, globalement, c'est une réponse qui se veut solidaire et auto-organisée pour faire valoir le droit au logement et aussi la lutte pour la régularisation des sans-papiers. Le but est de ne pas faire le taf des pouvoirs publics, mais de leur montrer le taf qu'ils pourraient faire, en fait. La campagne jusque maintenant, c'est, comme le disait Camille, 5 bâtiments où on a quand même relogé 350 personnes. Ça a commencé aussi en fait face à l'expulsion des migrants qui habitaient dans le squat à Jette qui allait fermer, et donc il fallait trouver une solution pour ces personnes-là. Et les pouvoirs publics restant inactifs, ça a aussi participé au fait, à cette mobilisation. Et donc en ouvrant des bâtiments, on a pu reloger ces personnes. Et ça a aussi donné des résultats un peu cocasses, parce que donc, du coup, il y a 2 semaines, dans la presse, on a lu que les pouvoirs publics se félicitaient d'avoir trouvé eux-mêmes une solution dans les discussions avec différents collectifs et notamment avec CityDev, dans la signature d'une convention temporaire avec eux. Alors qu'en fait, c'est au travers de l'occupation du bâtiment de CityDev que cette convention a pu être signée. Donc c'est parce que la campagne de réquisition envers ce bâtiment et a forcé en fait l'occupation et la signature qu'une solution a été trouvée. Alors on encourage évidemment les pouvoirs publics à réquisitionner eux-mêmes leur propre bâtiment et à éviter que... Enfin, que ça doive passer par des occupations et par une prise de risque aussi. Pour nous, ce serait chouette qu'ils prennent les devants en fait et qu'ils fassent valoir réellement le droit au logement.
Oui, parce que du coup, il y a cette loi anti-squat qui existe et qui vous met peut-être vous dans une situation compliquée.
Oui, elle nous apporte plus de risques. Après, il faut aussi dire que cette loi anti-squat de 2017, si je ne me trompe pas, a été révisée depuis. Et maintenant, c'est pas systématiquement considéré comme un crime que d'occuper un bâtiment. Il y a quand même ce débat de juristes entre savoir si c'est le procureur du roi ou un juge qui est responsable en la matière. Ça dépend du cas par cas, mais c'est vrai que du coup, les personnes qui s'impliquent dans ces actions risquent des crimes pénals. Donc des jugements sont, enfin voilà, risquent quand même pas mal de en termes d'argent et de possibles années de prison.
Et Camille, tu avais peut-être d'autres choses.
On a pas mal de choses à raconter, mais peut-être donc notamment en termes de criminalisation. Ben, du coup, c'est un peu ce qui s'est passé vendredi 26 quand on a essayé de réquisitionner le bâtiment Pacheco. Donc, pardon, on est rentré dans le bâtiment et après une petite heure, les policiers sont arrivés. On a dialogué avec les pouvoirs publics pour tenter une négociation, comme ça s'était passé lors des occupes précédentes et où ça s'était relativement bien passé, vu qu'on a réussi à signer ces conventions d'occupation pour le relogement de ces personnes. Mais là, du coup, au Pacheco, ça s'est un peu moins bien passé, où du coup, le président du CPS, Khalid Dian, et le bourgmestre de Mille Bruxelles, Philippe Clos, ont décidé d'envoyer les flics pour une intervention musclée pour mettre fin à l'occupation. Et donc ça a quand même fini par l'arrestation de, enfin la prise d'identité et le comment dire le ouais enfin
le monde.
ouais donc il y a 38 militants et militantes qui ont été arrêtés, dont on a pris les identités et qui risquent du coup une amende désormais. Et donc voilà, c'est un peu quand on sait que c'est un bâtiment du CPS qui a hébergé des personnes, qui est un bâtiment qui était voué à l'hébergement et aux soins de personnes précaires, et que désormais ce bâtiment est vide depuis 4 ans. C'est 12 000 m² dans le centre de Bruxelles, vide depuis 4 ans, sur lesquels il y a déjà eu des tentatives de négociation, notamment par la voix des sans-papiers qui avaient demandé de signer une convention d'occupation temporaire, et ça a été refusé déjà à l'époque. Et donc quand on pense que voilà, c'est un bâtiment dont le CPS est propriétaire, CPS donc censé être en charge de l'aide et de l'assistance aux plus démunis, qu'on connaît une telle crise du logement à Bruxelles où des milliers de personnes sont à la rue, plus de 4000 personnes selon le dernier recensement de la Strada en 2018. D'ailleurs, les nouveaux chiffres vont sortir bientôt et ils s'annoncent être encore plus grands. Et que, on a un bâtiment dans lequel il y a la possibilité de faire du logement. Et les pouvoirs publics ne sautent pas sur cette occasion de pouvoir loger des personnes précaires, des personnes à la rue, et donc c'est réellement, on voit que c'est réellement un choix politique de ne pas faire valoir le droit au logement. Et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Oui, simplement pour contextualiser, l'action a été menée le vendredi 26 février et le mercredi 24 février, si je me trompe pas, lors d'un conseil communal, les élus ont voté pour créer un un contrat d'occupation temporaire de ce bâtiment, mais sans y inclure ou même en y excluant des projets de logement, alors que durant les négociations, plusieurs conseillers communaux, échevins et le chef de cabinet du CPS de Mille Bruxelles, donc de Zian, nous a bien dit que cette fois-ci il n'était pas ouvert à ce modus operandi de ouverture du pied dans la porte, et que cette fois-ci il aurait souhaité que nous déposions au préalable, ou alors que nous déposions dans les jours qui suivent, notre projet d'occupation temporaire, comme si notre projet, qui est un projet objectivement de logement, pouvait être repris dans leur projet d'occupation temporaire. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui est à souligner, c'est ce double discours des pouvoirs des autorités communales. Et ensuite, le lundi, ils sont empressés à faire la promotion justement de leur projet d'occupation temporaire pour bien, compenser dans le spectacle médiatique de l'actualité bruxelloise que malgré leur répression policière, ce bâtiment, après 4 années de vide intersidéral, allait se voir enfin une fonction d'occupation qui, par ailleurs, ne sera pas avant plusieurs mois et qui demande beaucoup de conditions que peu d'SBL ou peu d'associations bruxelloises peuvent se permettre de respecter. Voilà, c'était un petit point.
Oui, mais ça illustre parfaitement ce gros problème des occupations temporaires officialisées ou... Bon, il ne se passe rien, ou il se passe rien dans ce bâtiment, et puis il faut votre démarche pour que finalement se passe quelque chose. Enfin voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on avait déjà. Voilà, enfin c'est au moment où un bâtiment est exploité, tu dis ah oui, non mais les travaux vont commencer, tout ça. Enfin voilà, c'est toujours cet élément déclencheur. Mais là les occupations temporaires, on vous dit encore ouais mais vous pourriez l'occuper, mais vous avez juste à rendre un méga dossier et tout ça. Enfin, quand il y avait une opposition assez facile entre un promoteur privé qui dit ouais c'est bon on va commencer les travaux, enfin voilà, le truc est fondamentalement méchant en face, c'est bien, mais là on fait jouer des gens qui sont tous en recherche de bâtiments, et on les fait jouer l'un contre l'autre entre occupation temporaire pour des assos qui ont également besoin de lieux pour vous ici pour du logement. Enfin voilà, c'est ce truc est vraiment ultra malsain, comment ça tourne aujourd'hui, ces pseudos d'occupation temporaire.
Oui, parce qu'on met la pauvreté en compétition, en fait. On met les plus précaires en compétition. Et on voit aussi de plus en plus des espèces d'appels à dossiers pour des bâtiments vides et qui seraient plus pour de la création artistique, des choses comme ça.
Et là, il y a 14 000 mètres carrés, quoi. Enfin, ouais. C'est bon, enfin, il y a la pièce pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Et c'est un peu ça qu'on a proposé aussi, qu'il puisse y avoir, que c'était pas incompatible, en fait, qu'il puisse y avoir une partie dédiée à quelque chose de culturel ou d'artistique, mais qui réserve une partie pour du logement. Et mais il y a un peu toujours cette opposition aussi qui se fait entre bons et mauvais squatteurs, donc les gens qui viennent squatter de manière illégale, qui viennent réquisitionner des bâtiments et donc tout ça lié à la question de la criminalisation du squat, et puis toutes ces occupes temporaires beaucoup plus institutionnalisées qui fleurissent sur des questions plus artistiques et qui permettent de valoriser l'image du quartier. Et donc,
sous couvert de cohésion sociale.
Sous couvert de mixité sociale, de cohésion sociale, de redynamisation d'un quartier. Mais bon, voilà, de quel dynamisme on parle, pourquoi on veut redynamiser un quartier, pour qui, comment. Et je pense qu'il y a beaucoup de manières de le faire. Et les pouvoirs publics ont choisi un peu leur manière, qui est une manière clairement gentrificatrice. Mais donc, le problème, c'est que ouais, le type de dossier qui est demandé à ces assos, ben il faut voilà, ils demandent notamment 5 ans d'expérience dans l'occupation temporaire et un projet innovant, et donc
qu'est-ce que ça veut dire,
tu peux pas valoriser tes expériences de squat
Oui, voilà, je sais pas, il faut avoir signé plusieurs conventions, quoi. Mais voilà, et du coup, on voit très bien quel type de d'association est ciblée. Et voilà, et je pense que c'est des types d'occupations ou plutôt de conventions qui sont signées. On voit comme au Tripostal, à CU, à Citygate, et c'est des occupations où c'est des projets desquels les pauvres sont clairement exclus et qui n'intègrent pas cette dimension logement. Or, on sait que voilà, c'est une vraie question sociale et un vrai problème pour lequel il faut que les pouvoirs publics s'engagent à trouver des solutions à l'heure actuelle.
Surtout que ça reste en fait des occupations précaires, et donc ça reste aussi du logement précaire. Dans le sens où je sais plus où je voulais en venir. Oui, le droit au logement en fait est un vrai droit à la dignité et qu'on doive en fait reloger en fait des personnes qui se retrouvent à la rue dans des conditions en fait qui restent précaires. Ça reste très compliqué, et alors que du logement en fait il y en a vraiment à Bruxelles, et que ces familles elles pourraient aussi se retrouver chacune dans un appart à avoir vraiment un endroit où poser ses valises et juste se sentir bien, reconstruire sa vie. Et là, on n'est pas là-dedans du tout. On est à tasser en fait des gens ensemble.
Mais pour reprendre un exemple très concret de notre première ouverture du 18 décembre 2020 de la clinique Antoine Depage, clinique qui appartient donc au CPS 2000 Bruxelles. Le CPS de Saint-Gilles avait émis une offre pour le racheter. Celle-ci n'a pas convenu au CPS 2000 Bruxelles, alors que voilà, c'est quand même un opérateur public immobilier par ailleurs. Sa question, une de ses fonctions, c'est quand même créer ou maintenir, rénover du logement social. C'est pas dans une logique spéculative qu'il devrait être gestionnaire de bâtiments, et malheureusement c'est structurellement ce qui se passe.
Ouais, mais du coup c'est clair que les conventions d'occupation sont pas la panacée et qu'il faudrait faire valoir un vrai droit au logement durable, et donc mettre en place une politique qui valorise ce droit de manière conséquente. Mais en attendant, par exemple, sur le bâtiment Pacheco, c'était une convention pour 4 ans. Et donc, ça permet aussi à des collectifs qui doivent bouger tous les quelques mois, qui sont dans des situations d'ultra-précarité, d'ultra-mouvance régulière, de pouvoir avoir un peu de répit, en fait. Et en attendant que le droit au logement soit respecté et mis en place tel quel, c'était déjà une solution alternative, quoi. C'est pas la solution, mais...
Oui, puis il y a une grosse hypocrisie politique, dans le sens où on voit parfois des situations du type un bourgmestre qui en fait, il y a des personnes en fait à reloger en urgence, et une commune pourrait dire on n'a pas d'hébergement d'urgence, et donc on appelle en fait un squat pour demander à ce que ces personnes soient logées. Et je trouve que là, on est un peu, enfin c'est un peu le monde à l'envers. Et je ne sais pas si vous avez pu aussi observer ce genre de choses.
En tout cas, moi, ce que je remarque, disons avec un peu de distance, c'est que ces occupations temporaires en fait nivellent par le bas le code du logement et le droit au logement, et c'est vrai que ça devrait être au pouvoir public, comme je le rappelais en début d'émission, en tout cas pour le bourgmestre, de réquisitionner des bâtiments qui sont vides depuis plus de 6 mois, et à la place de ça, c'est passé par des collectifs de citoyens qui risquent différents préjudices. Passer par des ASBL, qui en fait vont faire normalement leur travail. Et je sais pas si je réponds vraiment bien à la question, mais
c'était pas vraiment une question de toute façon.
Mais voilà, il faudrait pas rentrer dans il faudrait pas que cette logique d'occupation temporaire devienne systémique et permette en fait aux politiques et aux propriétaires, quel qu'il soit, de ne pas remplir leur devoir du respect des normes de logement.
Je propose propose de faire une petite pause musicale.
Bah ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute du coup?
On écoute Xuxu, peut-être ça se prononce comme ça, avec Rumpus Room.
Bells like a maracas. You don't care who hears.
It costs a lot to feel this cuckoo.
What is a face without a crisis?
Just let them be as a crisis. No posture, bad posture. Flaming hot Cheetos, Fuego Takis. Don't do it.
Fingers cast in that head.
Lovelessly short, lovelessly dried. Don't trip on your skates.
A coconut hits you on the head.
I'll turn needy and brown.
Choice leaders, original bugles.
Les promesses de l'aube, toujours, il est 8h34 et donc on reprend la discussion avec la campagne de réquisition solidaire.
Oui.
Oui, et donc on voulait faire un point sur les bâtiments qui aujourd'hui sont occupés.
Ok. Je sais pas si. Ah oui, mais donc comme je l'avais rappelé, le premier bâtiment a été ouvert le 18 décembre dernier, ancienne clinique d'Antoine Depage. Une superficie plus ou moins de 3000 mètres carrés. C'est vu. Enfin, une occupation. Une convention d'occupation a été signée le 5 février dernier, permettant à 80 personnes d'y être hébergées pendant 6 mois, sans comprendre les enfants. Le deuxième bâtiment qui a été ouvert le 15. Enfin, réquisitionné le 15 janvier, est une ancienne concessionnaire Opel à Molenbeek. Plus ou moins 6 000 mètres carrés, finalement, après des pourparlers avec le propriétaire qui n'ont mené un peu nulle part. Après, je pense, deux, trois semaines maximum, on a remis le bâtiment. Ensuite, c'était le 22 janvier, c'est un ancien home, toujours à Molenbeek, qui a pu accueillir une quarantaine, cinquantaine de personnes jusqu'à présent, et un contrat de bail précaire de 6 mois. Ensuite, le quatrième bâtiment qui appartient à CityDev, qui est l'ancien pôle administratif de la British American Tobacco à Molenbeek, toujours. Plus de 12 000 m², un bâtiment incroyablement nickel qui a pu à ce jour accueillir plus de 250 personnes, voire 280. La convention est toujours dans les négociations, mais devrait être poussée pour un an d'occupation. Et enfin, le cinquième et dernier bâtiment, le Pacheco, c'était 3 heures d'occupation. Voilà.
Et zéro relogement.
Et zéro relogement.
Mais ouais, du coup, pour peut-être embrayer sur ce qu'on a mis en place par rapport au Pacheco, on va pas, on a décidé de pas s'arrêter là en fait, et d'essayer de mettre un peu en avant les incohérences et les mensonges des pouvoirs publics par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure sur une possibilité de répondre à un dossier pour un appel à projet, avec un dossier pour un appel à projet. Et la lutte pour essayer de faire du logement dans cet immeuble-là. Et donc on a décidé d'écrire une lettre ouverte aux autorités pour dénoncer un peu ce qui s'était passé. Et donc on appelle quiconque voudra à envoyer un mail aux autorités qui reprend, donc on propose sur la page Facebook de la campagne un mail type qui permet de... Où vous pouvez librement le modifier et dire ce que vous avez aussi envie de dire à nos dirigeants politiques, mais qui reprennent des idées de pouvoir lutter pour que ce bâtiment soit administré pour du logement. Et on recherche également, du coup, des personnes qui habitent ou sont domiciliées sur 1000 Bruxelles pour lancer une interpellation citoyenne pour remettre en question ce projet d'occupation temporaire, avec tout ce qui va avec, dont on a déjà parlé.
Pour vous contacter
Sur la page Facebook de la campagne, donc campagne de réquisition solidaire.
Au pluriel.
Au pluriel, voilà.
On mettra ça en accompagnement du podcast sur le site de Radio Panique.
Et on peut lire aussi régulièrement vos communiqués sur Indie Media ou si on n'a pas de Facebook, par exemple.
Exactement. Et je tenais aussi à rappeler que tout ce qui a été dit ici, on n'a pas été dit au nom de la campagne, mais en tant que... Camille, membre de la campagne de réquisition solidaire, avec ses subjectivités et voilà.
Et Camille.
Avec nos subjectivités respectives.
Exactement.
Très bien. Et je vous remercie aussi d'être monté jusqu'ici.
Merci de nous avoir invités.
Merci à vous.